Bonjour à vous tous, auditeurs amis, bonjour. Et comme chaque matin, nous voici réunis. Pour nous, c'est d'ailleurs un très grand plaisir, vous le savez. Nous allons commencer par les foulées. Vous courez sur la pointe des pieds en laissant les bras bien souples. Allez, courez, courez, courez. Vous levez les genoux d'abord un petit peu. Et puis de plus en plus haut, le droit, le gauche, droit, le gauche, droit,
le gauche. D4P.
Chrétien aujourd'hui.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices de D4B. Bienvenue pour ce dimanche matin ou lundi soir. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous pour cette émission. Vous avez entendu, Chrétien aujourd'hui. J'avais décidé de ne plus faire des thèmes d'actualité pour ne pas être trop déprimant et de faire une série qui s'intitule « Lire des livres ». Parce que oui, la lecture peut délivrer et la lecture de livres en particulier. Mais là, j'ai eu un petit dilemme. J'ai lu un livre qui parle de l'actualité. Alors, ça va être un peu les deux. Et de prime abord, vous allez vous dire que c'est un thème déprimant. Et effectivement, je vais vous dire, le livre, c'est le livre de Gisèle Pellicot qui s'intitule « Et la joie de vivre ». Et donc, ce livre, je l'ai lu. Et je l'ai lu avec, sans le savoir, une amie qui habite la région parisienne et qui l'a lu aussi. Et qui en a fait un petit compte-rendu, une vision, elle est pasteur, donc une vision chrétienne de ce livre, et elle m'a donné ses notes, et du coup, à partir de ça, à partir de ce qu'elle a écrit, je reprends un peu son déroulement, ses idées principales, et puis voilà, donc c'est un peu une émission, entre guillemets, à deux voix, avec quand même un arrière-fond donc, théologique, mais aussi, surtout, le livre de Gisèle Pellicot, un livre qu'elle a co-écrit avec une journaliste qui s'appelle, je l'avais noté, Judith Pérignon. Voilà. Et donc on va commencer avec ce livre, tout de suite après, un temps musical, donc une ode aux femmes du monde.
Les yeux embués, seulement vêtue ce soir d'un voile léger. Où sont passées la souplesse, les courbes qu'on caresse? La jeunesse est éphémère comme la vie sur terre. Il y a au fond de nos âmes, porteuses d'espoir, de mélodies, de mélodrames, de sombres histoires. Qu'on ait aimé sans frémir, osé sans désir. On peut être soi-même et qu'on nous aime. Aux femmes, femmes du monde. Se déshabille sur les réseaux sociaux, qui enchaînait à des grilles, hisse des drapeaux. Ne pas mourir bâillonné, violé ou voilé, mettre soi-même et qu'on nous aime. Nous sommes loin, tu imagines, des sorcières d'antan. De celles qu'on assassine sous les yeux de leurs amants. Il y aura d'autres lieux, aussi d'autres cieux, où toutes les rimes anonymes deviendront féminines. Aux femmes, femmes du monde. Femmes du monde. Aux femmes. journal, il y a ces images, les folles, les infos, les fatales. Des stars sans maquillage qui balancent le mal. D'autres soumises à des hommes malheureux et en peine, qui dans leur lit s'endorment sans qu'on les aime. À toutes ces dames dans ma mémoire, résistant malgré les drames au désespoir, des savantes intermites, mères émérites, il y a une part de nous-mêmes chez ces femmes qu'on aime. Femmes, femmes du monde, femmes, femmes du monde, oh femmes.
C'était Marie Coutant, aux femmes du monde. C'est dans un album du même nom, aux femmes du monde. Je trouve cet artiste super. Et si vous en voulez plus, vous pouvez aller sur son site internet www.mariecoutant.com. Voilà. Et donc, je voulais continuer avec. Avec donc ce thème-là du livre de Gisèle Pélicaud, qui, par rapport à une actualité telle qu'on la lit dans les journaux, a vraiment le mérite, comme c'est un livre, d'être plus réflexif. Et en plus, elle injecte dans ce livre sa force et son énergie et sa joie de vivre, hein, c'est le titre du livre. Donc vraiment, n'ayez pas peur de le lire, ce livre. Avant de commencer, vraiment, j'aimerais juste faire une petite précaution oratoire. Voilà, Gisèle Pélicaud n'est pas chrétienne. Et si j'en parle en tant que chrétien ce matin dans l'émission Chrétien aujourd'hui, ce n'est pas pour la récupérer, pas du tout. C'est parce que son livre en particulier, son action en justice, ce livre m'a percuté. Ça me percute et ça percute aussi ma foi chrétienne et mon regard et ma vision sur le monde. Et donc voilà, je tenais à dire ça, parce que voilà, il ne s'agit pas de récupération, pas du tout, mais au contraire, voilà. Et alors, après, avec qui je suis, les outils que j'ai, donc la Bible et puis d'autres références philosophiques, eh ben, je vais essayer de vous présenter une réflexion ce matin qui va s'articuler en trois parties. D'abord, la question du mal, ensuite, la question de la gratitude, et ensuite, la question de l'amour. Et donc, on verra ça. Je rappelle un tout petit peu, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, les faits, c'est-à-dire que Gisèle Pélicaud était mariée depuis presque 50 ans avec un homme qui s'appelle Dominique Pélicaud. Et il a, pendant au moins 10 ans, il l'a droguée pour qu'elle elle dorme très profondément, pour la violer, et la violer avec d'autres hommes qu'il trouvait, qu'il recrutait, ou voilà, je sais pas, sur un site internet, voilà. Et c'est quelque chose qui a été révélé à un moment, parce que, voilà, il s'est fait prendre un peu la main dans le sac, et il avait toutes les vidéos, il avait tout enregistré, et donc cela a donné lieu à un procès qui a duré pas mal de temps. Et c'était donc une histoire sordide. Alors, quand je dis qu'elle a été violée plus de 200 fois pendant 10 ans, par, en plus de son mari, par 50 autres hommes, et tous ont été condamnés, y compris en appel, pour celui qui avait osé faire un appel, un recours. Voilà, donc tous ont été condamnés à plusieurs années de prison, donc au moins Au niveau de la justice, on a, voilà, le travail a été fait à ce niveau-là. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais lire le livre de Gisèle Pélicaud. On a tous ça en arrière-plan, mais voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit de sa vie et qu'est-ce que tout ça nous raconte alors aussi précisément du mal. Alors, je vous ai dit, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est la question du mal. Et le mal est là absolu, c'est-à-dire que il est radical dans ce qu'a commis son mari. C'est un vrai, c'est un scandale dans le sens où c'est une inversion complète, voilà, de un mari qui est censé prendre soin, respecter, c'est dit au mariage, hein, c'est, j'invente pas des choses. Voilà. Eh ben, là, a fait tout le contraire, n'a ni respecté, ni pris soin. Voilà, ce qu'elle a fait, des fois, pouvait mettre en danger de mort, hein, son épouse. C'était vraiment. Et donc, il y a un mal qui est radical, qui est complet là. Et puis il y a un mal, c'est un peu des idéotypes, hein, ce que je dis là, mais il y a un mal qui est banal. On a ces 50 mecs, 50 hommes qui ont une vie à côté, qui certains sont mariés, certains ont des conjointes, certains ont des enfants, des métiers. Et puis il y a cette banalité là qui est voilà. Et le soir, ils se trouvent sur un site internet, ils se voilà et ils se mettent d'accord pour un viol avec le mari. Alors ils ont toujours prétendu, et c'était leur ligne de défense au procès, qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de violer. Mais en fait, voilà, si, la personne n'était pas consentante, Gisèle n'était pas consentante. Donc, voilà, on est vraiment et sur un peu, voilà, quelque chose, c'est banal, pas dans le sens où c'est pas grave, c'est banal dans le sens où c'est monsieur tout le monde. En l'occurrence, hein, je dis monsieur, c'est vraiment des hommes. Et ça fait penser, pour la banalité du mal, fait penser à Hannah Arendt, qui, en parlant de la Shoah et des organisateurs de la Shoah, parlait de la banalité du mal. Ça a été mal interprété, elle a été accusée de banaliser les événements, mais elle, enfin, c'était pas du tout ça, c'était pas son intention, bien sûr, on peut pas lui imputer ça. En fait, ce qu'elle voulait dire était éloignée de cette accusation, mais elle voulait affirmer qu'on pouvait participer activement au mal radical sans se départir d'une existence banale. Elle analyse ça lors d'un procès célèbre, le procès d'Eichmann à Jérusalem. Eichmann était un fonctionnaire nazi. Et il ne faisait qu'exécuter les ordres. Et c'était pour lui un fonctionnaire. Et voilà. Et donc pour lui, c'était banal, quoi. C'était son métier, en fait. Mais sauf qu'en fait, il a, comme ça, contribué à la mort de milliers de personnes, quoi. Donc, Hannah Arendt pointe que le mal, c'est pas les grands méchants qu'on voit dans les films, les séries ou les contes, voilà, où ils ont quelque chose qui signifie qu'ils sont méchants. Non, le mal peut être, voilà, chez n'importe qui, causé par n'importe qui. Et donc, c'est en ça qu'il est banal. Et il n'y a rien, a priori, qui distingue dans son apparence une personne capable des actes les plus abjects. Et c'est quelque chose que l'on retrouve un petit peu en pensée, en tout cas en pré-pensée dans la Bible. L'apôtre Paul dit que leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité, leur cœur acquis à tous les humains. Donc tout le monde est capable de ce mal-là, plongé dans l'obscurité, cœur insensé. Et en fait, voilà, on peut tous, si on n'y prend pas garde, faire du mal, participer à un mal radical sans bien le comprendre. Donc d'où l'importance d'être vigilant sur nos vies, sur nos actions, sur nos habitudes même. Et c'est aussi quelque chose qu'affirme la Bible dès les premiers chapitres. Alors avec un texte que je ne vais pas vous lire, mais dans le jardin d'Éden, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc Dieu dit ne le prenez pas, ne le mangez pas. Les hommes, Adam et Ève, vont le faire. Adam, c'est le mot Adam signifie humain, C'est l'humain. Donc c'est vraiment, c'est pour dire que c'est partagé. Et l'humain, ben voilà, va vouloir avoir cette connaissance du bien et du mal, savoir ce qui est bien et mal de faire. Et donc Eichmann pensait que c'était bien d'obéir aux ordres. Et donc ces hommes qui se retrouvaient sur Internet et puis ensuite pour un viol, c'était quelque chose qui était partagé avec d'autres hommes. Il y avait un encouragement réciproque. Ils voyaient pas le mal. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut tous nous frapper, et on peut aussi appliquer ce fait que on ne reconnaît pas un méchant à première vue aux victimes. On ne reconnaît pas une victime à première vue. Et à un moment dans son livre, Gisèle Pelicot dit que si elle mettait une nouvelle robe, ça allait être commenté et ça allait être tordu dans le sens vous allez bien en fait, vous voulez être encore coquette, donc vous allez être et donc on lui déniait le statut de victime et même c'était une inversion des rôles et en fait bon alors c'était mais du coup pareil, même vigilance face au mal. Alors par rapport à cette question du mal, alors personnellement je connais pas beaucoup Hannah Arendt, je connais un tout petit peu plus Paul Ricoeur pour un tout petit livre qui est très facile à lire, enfin c'est vraiment pas son livre le plus difficile et qui est très court, c'était une conférence qu'il a donnée, c'est qui s'intitule Le Mal, voilà, un défi à la philosophie et à la théologie. Et dans ce petit livre très court, Paul Ricoeur, c'est très bien parce que il permet de clarifier un peu les choses. Et quand on parle de mal, eh ben ce qu'il dit c'est que on ne parle pas forcément que de la même chose. Il y a le mal d'abord que l'on souffre. Je souffre d'un mal, je souffre d'une maladie, je souffre d'une blessure ou d'une attaque, j'en souffre. Voilà. Donc c'est d'abord une souffrance. Le mal, c'est d'abord ça, et d'où le cri de celui qui souffre. Mais le mal, c'est aussi, dans le langage courant, quelque chose que l'on fait. C'est quelque chose que l'on cause. Faire mal, tout simplement, mal faire aussi, quand on fait mal quelque chose, on fait certainement du tort à quelqu'un. On ne sait pas à qui, peut-être à soi-même, mais voilà. Donc, il faut bien comprendre que le mot mal, et ça c'est le début, ça, c'est plusieurs choses, on met derrière un mot deux réalités très très différentes. Et il faut bien les distinguer parce que dans notre esprit, on les mélange tout le temps. Parce que tout simplement, on parle d'une peine pour quelqu'un qui est condamné à la prison, par exemple. On parle d'une peine. Donc, en fait, il souffre alors que c'est une condamnation. Bon, par ailleurs, une action qui fait honte, quand on fait mal à quelqu'un, on peut avoir honte de faire mal, et donc on souffre d'avoir mal fait, enfin, d'avoir fait du mal. Voilà. Et puis, et ce sentiment de honte, en plus, il peut être, et ça va être très important, le mot honte, dans ce qui suit, ça peut être spontanément l'inverse. Spontanément, c'est les victimes qui ont honte, en particulier dans les situations de viol. Les victimes ont spontanément honte et les auteurs pas, parce que, je sais pas, ils sont désinhibés et puis ils sont cachés, donc voilà. Et donc, ce qui a été très très important pour Gisèle Pelicot, et c'est pour ça qu'elle a ouvert le procès au public, et elle raconte aussi très bien comment elle a pris cette décision, comment c'est venu, voilà, d'ouvrir ce procès au public. Elle avait le droit de le rendre clos et qu'il n'y ait pas de journalistes, et voilà. Et en fait, elle a décidé de l'ouvrir aux yeux du monde pour que, elle l'a dit vraiment, la honte change de camp, et que ce ne soit plus les victimes qui aient honte, mais les coupables, les bourreaux en l'occurrence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important, cette question de la honte, mais c'est vrai que dans cette question de la honte, il peut se passer un mélange entre le mal souffert et le mal causé. Mais voilà, c'est important de savoir bien distinguer les deux pour ensuite pouvoir continuer. Alors ensuite, Paul Ricoeur continue son livre, c'est vraiment très intéressant, sur les différentes étapes de l'histoire, de la pensée, entre les mythes de la Bible ou des Grecs ou d'autres mythes qui parlent du mal. Ensuite, il parle de l'époque de la sagesse biblique aussi ou autre. des philosophies, du bouddhisme et tout ça. Et puis, il y a ensuite le stade de la théodicée qui pose une question un peu absurde qu'on se pose plus trop aujourd'hui, mais on a beaucoup posé au XVIe, XVIIe siècle. C'est pourquoi y a-t-il du mal, puisque Dieu est bon, il est tout-puissant. Mais alors, s'il est bon et tout-puissant, pourquoi il y a du mal? Pourquoi il ne ferait pas en sorte que tout aille bien? Et c'est un peu moqué dans le livre de Voltaire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il dit voilà, non, tout ne va pas mieux pour le meilleur des mondes. C'est quelque chose qui se retrouve dans une théodicée, celle de Leibniz, et voilà. Donc c'est une question qu'on s'est posée dans le passé, et en fait. Paul Ricoeur dit qu'il faut dépasser ça pour être ensuite dans trois étapes. Il y a, à la fin de son petit livre, il y a « Qu'est-ce qu'on peut faire face au mal ?» Et il propose trois pistes qui se retrouvent dans l'histoire de Gisèle Pellico. Trois pistes. Sentir le mal, penser le mal et agir sur le mal. La première piste, sentir le mal, ben, personnellement, c'est quelque chose que j'ai un petit peu senti au moment du procès, mais que j'ai encore plus senti en lisant le livre. On peut ressentir le mal. Et finalement, ça, c'est vraiment une étape très importante, c'est ressentir le mal. Je fais un petit écart par rapport à ce livre, par rapport à l'actualité. Le réchauffement climatique, ben là, on l'a senti. Ben, voilà. Et là, on va peut-être se dire, bon, il faut peut-être qu'on change certaines choses dans notre société, dans notre façon de consommer, tout ça, ou de voter, mais bref. Donc, on l'a senti, c'est très important pour bien le prendre en compte la mesure de ça. Et on n'est pas les premiers à le sentir. Vous savez que dans des pays plus au sud, géographiquement, et des pays plus vulnérables, les dégâts se font déjà sentir depuis bien longtemps. Mais là, en France, vraiment, on commençait à le sentir, mais cette année 2026, on peut pas y avoir échappé. C'est vraiment particulièrement dramatique ce qui se passe en France en ce moment. Je referme la parenthèse, mais voilà, sentir le mal, en l'occurrence pour moi là, de lire le livre de Gisèle Pellico, ça m'a permis de le sentir, de sentir tout ce qui avait été brisé, cassé chez elle quand elle a appris ça, et chez ses enfants, les répercussions. On peut vraiment là, en lisant le livre, on prend une claque. Hein, c'est la deuxième chose, c'est pas seulement sentir, c'est penser. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à juste sentir, il faut organiser ensuite. Et l'étape de la pensée est très importante. Et penser, c'est ce qui a été permis au moment du procès. En ouvrant le procès, comme je l'ai dit, au public, les journalistes du monde entier sont venus, et on en a entendu parler, et on a parlé du viol, et on a parlé de cette culture du viol, on a parlé de l'impact de la pornographie, des sites internet malveillants, etc., etc. On l'a pensé, voilà. Et c'était une étape essentielle aussi pour transformer ensuite en action. La troisième étape, c'est l'action. Il y a eu d'abord le ressenti, sentir, ensuite penser et ensuite agir. Et il y a déjà eu une répercussion extrêmement concrète de ça, c'est l'évolution de la loi. Avant la définition de la loi, une définition du viol qui datait de 1980, c'était tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Et bien ça a pu changer. Grâce à ce procès, depuis le 29 octobre 2025, le viol est établi par l'absence de consentement. Voilà. Tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Mais voilà, je rentre pas dans les détails. Voilà, donc ça, je répète ce que dit Paul Ricoeur, sentir le mal, étape essentielle. Et donc, pour ça, on a besoin des fois de médiation, et là, en l'occurrence, le livre, c'est la médiation. C'est pour ça que lire des livres, mais lire relie aussi, nous relie les uns aux autres. Là, je suis relié à son histoire par ses mots et parce que voilà ce que j'ai lu et ce que j'ai ressenti à la lecture. Sentir, penser, réfléchir collectivement, en société, individuellement, voilà, et agir. Trois étapes et voilà. Donc, je vous propose une prochaine musique avant de continuer sur d'autres aspects de son livre, La joie de vivre. C'était l'air de Now We Are Free, donc maintenant nous sommes libres. C'est un air qui se trouve à la fin de la musique de Gladiator et qui elle, a été interprété par les Two Cellos. Donc du coup, je continue avec des thèmes légèrement plus joyeux quand même. La gratitude, deuxième étape importante du livre de Gisèle Pellico, c'est la gratitude. Une partie importante de son livre est consacrée à remercier les personnes qui lui ont tendu la main. Elle commence par aller remercier le vigile du centre commercial qui a insisté pour que Dominique Pellico soit arrêté lorsqu'il a été surpris à filmer sous les jupes de femmes. Et c'est par là que ensuite l'enquête a été menée sur Dominique Pellico. Et c'est donc cette première personne que là Gisèle remercie dans son livre et qu'elle a d'abord été remerciée en personne voilà, pour avoir permis de révéler ce qui se passait et qui était d'ailleurs aussi en train de la détruire hein, puisque à force d'être droguée comme ça, elle avait des problèmes de mémoire. Voilà. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, la gratitude, c'est face au mal aussi, c'est un agir. Je disais, on peut agir, il y a eu la loi, mais on peut aussi agir concrètement. Et la gratitude nous permet d'agir face au mal. Ça peut paraître surprenant, juste un merci, un petit, voilà, ou un grand merci, mais en quoi est-ce que la gratitude nous permet d'agir face au mal? Eh bien, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la Bible. On retrouve la gratitude dans de nombreux passages. Il y a les femmes qui portent les aromates au tombeau de Jésus. Il y a Joseph d'Arimathée aussi qui vient et qui descend le corps, qui prend soin du corps de Jésus. C'est de la gratitude pour quelqu'un qui vient de mourir. Mais on peut aussi avoir de la gratitude quand Jésus reçoit... alors, il y a une foule nombreuse, selon les textes, 5000 personnes, ou 5000 hommes et plus, parce qu'il y a des familles et des enfants. Et il a, pour les nourrir, que 5 pains et 2 poissons, et il va nourrir la foule. Mais alors avant de nourrir la foule, il va déjà être dans la gratitude. Il va lever les yeux vers le ciel et dire une bénédiction qui est aussi une formule de gratitude. J'ai 5 pains et 2 poissons. Merci pour ça. Voilà. Cette gratitude-là, c'est vachement important pour plusieurs raisons. D'abord pour notre santé mentale. Si on se concentre sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas, si on passe notre temps à ressasser, effectivement, on va finir déprimé. Et après, ça va être une habitude et on va toujours penser au mal et à ce qui nous fait souffrir et tout ça. Donc, pour quitter ça, avoir de la gratitude. Voilà. Merci pour ça. Merci pour ce que j'ai, même si c'est pas beaucoup. Même si, en l'occurrence, je sais pas comment je vais faire pour nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons. Voilà. Merci à cet homme qui a été vigilant, le vigile qui a été vigilant, qui a fait son métier, en fait. Merci. Voilà. Et ensuite, Gisèle Pellico, dans son livre, va remercier beaucoup de personnes qui l'ont aidé, soutenu. Il va y avoir ces deux avocats, il va y avoir voilà, la presse et les femmes aussi, les femmes qui lui ont, au procès, qui sont venues la voir, qui lui ont envoyé des courriers et qui disaient voilà, merci de m'avoir sauvé parce que voilà, Gisèle, tu dénonces le mal. Et donc ce merci était. Voilà. Et Gisèle remercie toutes ces femmes qui l'ont soutenue parce que. Elle était là pour elle. Donc il y a après un jeu réciproque de gratitude qui porte, qui soutient. Donc voilà, la gratitude nous permet de ne pas aller mal. La gratitude nous permet de nous soutenir mutuellement. Et je crois encore plus loin, ça permet de savoir ce que l'on a et d'être prêt à partager. Quand je dis merci, je suis prêt à partager ce que j'ai reçu. Merci à la boulangère d'avoir souri quand elle m'a tendu le pain. Après, je suis plus apte à sourire à mon tour dans la rue ou auprès de mes proches. Voilà. Simplement recevoir et dire merci permet de partager ce que l'on a reçu. Donc il y a voilà, 3 sens de la gratitude qui sont essentiels. Dire merci nous sauve vraiment de la dépression. Ensuite, dire merci nous permet de nous soutenir mutuellement. Et enfin, dire merci nous permet de savoir et de savoir partager. Et je pense que c'est aussi ce qui a manqué à nos politiques de lutte contre le réchauffement climatique, c'était la gratitude. En fait, on était dans l'Holocène et tout allait bien pour nous. Et on n'a pas été dans la gratitude pour ça. Et donc on s'est dit après, C'est pas grave, toutes ces choses sont naturelles, on n'a pas pensé, on va continuer la croissance, on va continuer les yachts, on va continuer les jets privés, et on continue un développement économique inégalitaire, et en fait, on n'était pas dans la gratitude, parce que si on avait été dans la gratitude, on aurait pris conscience, oui, il y a des choses qui sont fragiles, on fait attention. Ça fait au moins 50 ans que le film Soleil Vert est sorti, ça fait le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, je crois que j'étais même pas né, et on a fait quoi pendant ce temps-là? Voilà. Bon, si on avait été dans la gratitude, bon, je referme encore la parenthèse climatique, c'est désolé, c'est une obsession, mais en ce moment, c'est un peu difficile de faire autrement. Voilà, je vous propose d'écouter encore une musique et puis on continue sur le troisième thème du livre de Gisèle Pélicaud, c'est l'amour.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Stand by me, reste avec moi, c'est une chanson de Ben King. Alors d'abord, remerciement encore, et oui, la gratitude, remerciement à ma collègue qui m'a soufflé cette chanson et qui m'a dit, voilà, ce serait pas mal. Je ne serai pas effrayé, je ne pleurerai pas aussi longtemps que tu restes avec moi. C'est ce que dit cette chanson qui est magnifique. Et voilà, donc merci à ma collègue Elena Vicario. Et donc, je voulais continuer avec le thème qu'elle m'a aussi choisi et qu'elle a écrit sur la force de l'amour. Gisèle Pélicaud a traversé des horreurs, d'abord inconsciente et puis très consciente, trop consciente, je ne sais pas, mais en tout cas horrible à supporter avec... la durée de mise en place du procès, puis le procès en lui-même, voilà. Elle a traversé des horreurs de la main de l'homme qu'elle aimait. Et pourtant, son livre est un témoignage sur la force de l'amour. Elle aurait eu le droit, là je cite ma collègue, après ce qu'elle a subi de la main de 51 hommes, dont son mari donc, d'éprouver un ressentiment envers tous les membres du sexe masculin. Mais ce n'est pas le cas. Elle affirme, et ses propos pourraient... Elle affirme ça, les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble. À aucun moment elle ne cède à la rancune. C'est son point de vue, en tout cas on peut ne pas être d'accord hein, on peut, avec elle, mais en tout cas elle affirme encore ça, quoi, après tout ce qu'elle a vécu. Elle va même un pas au-delà, car elle croit profondément à un amour possible entre un homme et une femme. Et donc, elle s'autorise. Elle vit encore une histoire d'amour après avec quelqu'un d'autre. Elle rencontre quelqu'un plus tard, voilà. Et elle en parle dans son livre. Et donc, il y a cette capacité d'aimer qui vient chez elle d'une histoire de son enfance. Sa mère est morte très jeune d'une longue maladie. Et son père était militaire. Son père partait le plus souvent, le plus loin possible, pour les missions les plus difficiles, pour avoir l'argent pour payer le médecin. C'était vraiment une époque, on n'imagine peut-être pas forcément ça aujourd'hui, mais voilà. Et donc, il a vraiment fait tout ce qu'il a pu, et puis elle est morte un jour, sa mère dans ses bras. Et il y a cet amour-là qu'elle a vécu, Gisèle, qu'elle a vu, cet amour véritable entre son père et sa mère. Et c'est ça qui l'a aidé, qui l'a soutenu, et alors peut-être même à un moment que ça l'a illusionné dans ce qu'elle croyait vivre avec son mari Dominique. Mais ça l'a aussi maintenu. Elle savait que c'était possible. Et après, elle le revit, voilà, avec quelqu'un d'autre. Et voilà, on pense là avec elle un amour véritable. Et dans des paroles qui peuvent être très choquantes pour nous, Jésus dit un truc dans la Bible. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne que moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Pardon. Et en fait, dans la Bible, on apprend que Dieu est amour. Alors, Dieu est amour dans le sens agapé. Agapé, c'est un amour fort comme un amour pour ses enfants. C'est-à-dire, voilà, un amour indépassable et ineffaçable, normalement en tout cas, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais normalement, voilà. Et donc cet amour-là, agapé, aussi fort que ça, qui donne le sens de la justice aussi, parce que quand on a des enfants, par exemple, quand on en a un, puis un autre, bah, on cesse pas d'aimer le premier pour aimer le deuxième, ou on divise l'amour en deux. Non, bah non. T'sais, l'amour, c'est... L'image la plus juste serait de dire que l'amour se multiplie par le nombre d'enfants qu'on a, quelque chose comme ça. Mais c'est même pas tout à fait juste, enfin, puisque je l'expérimente depuis peu, j'ai un deuxième enfant, voilà. Eh ben, on aime de nouveau, quoi. Vraiment comme quelque chose qui, vous voyez, qui se crée avec la, voilà. Alors, c'est cet amour au sens agapé qui donne aussi un sens de la justice. Voilà, je ne vais pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je vais, voilà. Alors, ce n'est pas mes enfants hein, qui s'appellent Pierre et Paul. Mais voilà, c'est le sens de la justice. C'est ça l'agapé. C'est un amour dans ce sens-là. Il faut bien comprendre ça parce que ce n'est pas l'amour au sens d'aimer son conjoint ou d'aimer. Mais c'est un amour qui est fondamental, qui est fondement après pour d'autres amours. Voilà. Et effectivement, quand on sait qu'on est tous. Créatures de Dieu, donc tous dignes d'être aimés. Ensuite, on peut être voilà, dans le respect. On peut être dans l'amour aussi en couple. On peut être dans l'amour pour ses parents. Et puis, dans l'amour fraternel avec ses frères et sœurs, bien sûr. Et puis, je dirais ses frères et sœurs en humanité, hein, tous les êtres humains. Et alors même après le stade au-dessus hein, que les saints comme saint François d'Assise ont vécu, c'est être dans l'amour pour toute la création et appeler toutes les créatures ses frères et sœurs. Voilà, frère soleil, frère vent, voilà, sœurs nuages et mauvais temps. Et oui, donc bon, ça c'est le stade des saints, mais en tout cas d'être dans la justice par rapport à l'amour que l'on peut avoir pour ses frères et sœurs en humanité, fonde ensuite voilà, cet amour autre qu'on peut avoir. Et donc c'est pour ça que cette parole de Jésus, elle paraît choquante à première vue, mais en fait voilà, c'est ensuite l'amour fondé par Dieu, par Jésus, nous donne le lien, la porte d'accès vers un amour à la fois entre humains, mais qui n'est pas juste voilà de l'érotisme, mais ou de, voilà non, c'est un amour voilà véritable et profond. C'est pour ça. Alors c'est ça ce que je voulais dire à propos de ce, il y a de l'amour, il y a dans l'amour vrai une capacité de bouleversement infini. Vivre l'amour vrai peut aussi nous prémunir des mensonges dits sur l'amour. Et Gisèle Pellicot parle de ce mensonge-là, voilà, cet homme, Dominique, qu'elle croyait aimer, et qui, en fait, était menteur, et il a été particulièrement menteur. Il l'accompagnait chez le médecin par rapport à ses pertes de mémoire. Il l'a manipulé, en fait. Il manipulait les faiblesses qu'il connaissait chez Gisèle pour aller exploiter ça et faire semblant que tout allait bien entre eux. Et voilà. Donc, c'était. Voilà. Y a aussi des mensonges qui peuvent être dites ou faites par rapport à l'amour. Et donc, il faut faire attention à ça. Le livre de Gisèle Pellicot nous permet d'aller un peu plus loin donc, dans la réflexion par rapport à l'amour. Et je vous invite à écouter une nouvelle musique.
Toi, tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi, tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs, on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi, tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi, d'ailleurs, quand elle était en pleurs. Toi, tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne. Ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit je suis désolée. Mais à de ces malheureux, on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêté et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi, la musique, tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit, en secret, tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Depuis toujours, tu sens que c'est un décorum. Toi, tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans les nuits s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
c'est Souveraine de Clara Isé. Encore un grand merci à mon amie Elena Vicario qui m'a inspiré de mettre cette musique ici. Cette chanson magnifique. Et je voulais donc continuer. Alors, simplement conclure cette réflexion qui est partie du mal, qui est passée par la gratitude et qui ensuite s'enracine dans l'amour vrai. Gisèle Pellicot s'enracine dans l'amour vrai et c'est cela qui lui donne la force de ne pas sombrer dans l'obscurité. Et là, je cite Elena. Et je continue. Et la résurrection du Christ est aussi l'affirmation de la victoire de l'amour sur le mal radical. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a mis à mort Jésus? Enfin, l'humanité, hein, enfin, les hommes à l'époque. Mais on peut se sentir d'une certaine façon responsable. Parce qu'on fait tous des choses qu'on ne voudrait pas faire. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis à mort le Fils de Dieu. Bon, voilà, il y avait de l'erreur, il y avait de la tromperie, il y avait de la méchanceté, il y avait tout ça. En tout cas, c'est ce qu'a fait l'humanité à ce moment-là. Qu'est-ce qu'aurait fait un homme normal son fils est assassiné? Il aurait tué tous les coupables. Eh bien, c'est pas ce qu'a fait Dieu. Dieu l'a ressuscité à la place. Il lui a redonné la vie pour que nous ayons la vie, en fait. Et c'est cet amour vrai-là qui est fondement de la foi chrétienne. Et je pense qu'on trouve de l'amour vrai dans le livre de Gisèle. Voilà. Alors, c'est différent, c'est pas la même histoire, mais c'est quand même. Voilà, il y a quelque chose de ça, je crois. En tout cas, on est engagé à s'ouvrir à la possibilité, à la suite de Gisèle, d'une joie de vivre, malgré un monde tourmenté et des épreuves. La joie de vivre, c'est le titre du livre de Gisèle Pellicot. Et c'est une invitation à laquelle chacun et chacune est appelé à répondre avec tout ce qui nous traverse. Voilà. C'était le livre du jour et la joie de vivre de Gisèle Pellicot que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies et même les médiathèques. Vous pouvez aussi lire Le Mal de Paul Ricoeur. C'est un petit livre chez Labor et Fides. Petit livre qui se lit très facilement par rapport à du Paul Ricoeur. Et je vous invite alors maintenant juste à partager quelques annonces, quelques informations concernant l'Église protestante unie de Mel, Celle-Saint-Mexan. Mais d'abord, je vous invite à écouter encore un morceau de musique.
knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt, like me on a tree. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company.
C'était « In hell I'll be in good company », ça veut dire « En enfer, je serai en bonne compagnie ». Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre cette musique-là vers la fin, c'est pas grave. Pour la conclusion, bah, d'ailleurs, je vais reconclure simplement en citant un chiffre. En 2025, 840 millions de femmes dans le monde, près d'une femme sur trois. 840 millions de femmes dans le monde est victime de violences conjugales ou sexuelle au cours de sa vie. Un chiffre stable depuis l'année 2000. Voilà, il y a du boulot face au mal qui ronge notre société. Allez, au boulot. Ensuite, donc, je voulais simplement dire que cette émission a été préparée par l'Église protestante unie de Melcel-Saint-Mexant, en la personne de Nicolas Geoffroy. Si vous voulez réagir à l'émission ou discuter, je suis disponible au 05 49 27 01 35. Je répète, 05 49 27 01 35. Vous pouvez nous retrouver tous les deuxièmes dimanches du mois à Celles-sur-Belle et les quatrièmes à Mel. Et puis le reste du temps, ça change tout le temps. Donc c'est trop compliqué. Allez, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite beaucoup de courage face au mal, beaucoup de volonté et du discernement. Et aussi, quand même, n'oubliez pas, malgré tout, de conserver de la joie de vivre. C'est important. Allez, bon dimanche à toutes, bon dimanche à tous. Et à la prochaine. Au revoir.
Neuf personnes sur 10 aiment le chocolat. La dixième ment.
D4P.
Je me souviendrai toujours du jour où je me suis retrouvé sans amour. Fallait voir ma tête, bien pire qu'un lendemain de fête. Les bretelles jusqu'aux chaussettes. J'ai fouillé toute la maison, j'ai vidé les placards et les poches de mes pantalons. Et même démonté la grande armoire, croyez-le ou non. Je n'avais plus d'amour dans mes tiroirs. Je me suis rendu jusqu'au grenier, assis sur le bord de la fenêtre. Non, je vous rassure, pas pour sauter, mais juste apaiser mon mal-être. Une bouffée d'air, une cigarette. C'est vrai que j'ai le cœur un peu fragile, sans doute l'amour un peu facile. Je le dépense pour des filles qui me renversent, telle une quille. Y a pas que la terre qui tourne en rond. Moi je suis tout seul sur ma map monde. Aujourd'hui c'est le printemps et je sais très bien ce que ça représente. Je veux pas être seul sur le banc public. Spectateur, je ne suis pas addict. Il me faut une idylle, faites-moi crédit. A découvert et votre compte et le dossier n'est nullement bon. C'est ce que m'a répondu Cupidon en rayant froidement mon nom. Je suis fiché, c'est pour de bon. C'est vrai, j'ai le cœur un peu fragile, sans doute l'amour un peu facile. Je dépense pour des filles qui me renversent, telle une quille. Il n'y a pas que la terre qui tourne en rond. Moi, je suis tout seul, comme un con. gueule collée contre la vitre, face au reflet de ma déprime. Soudain, mon regard se fige, je crois bien qu'on me sourit. J'ai une nouvelle voisine. C'est vrai que j'ai le cœur un peu fragile, sans doute l'amour un peu facile. Je le dépense pour des filles qui me renversent, telle une quille. Y a pas que la terre qui tourne en rond. Je vous demande pardon, quel est votre nom ?